Seigneur, ta parole est comme une lampe qui guide tous nos pas. Elle est une lumière éclairant notre chemin. Comme l'apôtre Pierre, nous te disons, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen.
Nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps.
Frères et sœurs, c'est avec joie et un peu d'émotion que je viens humblement vous partager la parole dans ce lieu, dans cette région riche en histoire où des frères et sœurs dans la foi nous ont précédés pendant des siècles. Nous sommes donc là, paroissiens d'une région près de Genève en Suisse, pour une semaine de marche sur le thème « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Verset que nous venons d'entendre. Et nous continuons, parce que nous étions déjà là l'an dernier, nous allons continuer notre exploration des huguenots. Et nous allons inscrire nos pas tout au long de la semaine dans les pas des huguenots. L'an dernier, nous avions découvert la vie et le parcours de Blanche Gamon. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, c'était une découverte. Peut-être que pour vous qui sommes ici du Diois, elle vous est familière. Cette femme, donc, d'ici, de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, près d'ici, donc dans cette région du Dauphiné, dans ce département de la Drôme, qui avait, à son très jeune âge, je crois qu'elle avait 21 ans, quand elle avait été arrêtée, elle tentait de franchir la frontière pour s'enfuir, Elle avait été torturée, elle a été poussée à abjurer sa foi, mais rien n'y a fait. Elle a tenu bon. Une foi impressionnante de cette jeune femme. Près de 50 ans plus tard, une autre femme, peut-être plus connue, plus célèbre, une autre héroïne protestante de la foi, dans une région juste à côté, un peu plus vers l'ouest, dans le département de l'Ardèche, dans la région du Vivarais, Marie Durand. Elle aussi, martyre, qui a été en prison pendant, les enfants, écoutez bien, 38 ans. 38 ans de sa vie, donc toute sa jeunesse emprisonnée à Aigues-Mortes dans la tour de Constance, un modèle de résistance. Alors on se demande, mais comment est-ce qu'elles ont tenu, ces deux femmes, qui n'étaient que des femmes ? Eh bien, on peut dire que c'est par un mélange de fidélité, de résistance, de courage, d'espérance, de force, en un mot, par la foi. Elles ont tenu, résisté avec une foi chevillée au corps, avec une vie fondée dans la lecture de la Bible. C'était pas une foi comme ça, simplement conceptuelle. Elles connaissaient les Écritures pour les avoir côtoyées quotidiennement. Et une vie marquée par une relation vivante à Jésus-Christ. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle voyait tous les jours ? Prenons le cas précis de Marie Durand. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà visité la tour de Constance. Faites voir. Bon, alors moi je ne l'ai jamais visité, mais j'imagine que ça devait être un peu gris. Rien qui puisse susciter l'imagination, qui puisse évader l'esprit, qui puisse être beau et donner espoir. Elle avait quand même les visages de ses sœurs, parce qu'elle n'était pas seule. Hein. Elle avait des sœurs aussi en Christ, emprisonnées avec elle. J'espère qu'elles avaient des visages pleins d'espérance. Mais disons que ce n'est pas par la vue de ce qui était visible que cette Marie a tenu, mais par la vue de ce qui était invisible. Alors, ça sonne un peu comme un oxymore. Peut-on voir ce qui est invisible ? Oui. Dans un rêve. Mais pas que. On imagine, on se projette, on envisionne ce que l'on espère, mais qui ne nous est pas visible. Alors, peut-être que Marie Durand, elle rêvait de retrouver sa maison au boucher de Pranle. Peut-être qu'elle rêvait de retrouver les visages des siens. Mais je pense qu'elle rêvait plus grand. Elle rêvait de voir s'accomplir quelque chose de la justice de Dieu. Elle rêvait sans doute de voir le visage de Jésus. C'était d'espérance qu'elle a vécu. Une espérance en ce qui est promis, mais pas encore accompli. Et pas encore visible. Alors, elle n'est pas aveugle. Hein. Marie est blanche. Elle voyait. Alors, la pauvre Marie a fini ses jours aveugle. Elle avait perdu la vue. Mais elle n'était pas aveugle. Donc, elle voyait ce qui n'était pas encore visible. Ce qui, en fait, n'appartient pas à ce monde, mais appartient à l'éternité de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, l'appelle l'habitation éternelle, on l'a entendu, qui n'est pas faite de main d'homme. Ou encore, l'édifice dans le ciel qui est l'œuvre de Dieu. L'habitation, l'édifice, quelque part, on nous parle d'une maison de Dieu qui n'est pas faite de main d'homme, qui disparaît par un incendie, par une inondation, par un tremblement de terre, mais quelque chose d'éternel dans l'éternité de Dieu. Et c'est pour ça que Paul encourage les chrétiens de Corinthe, et donc nous aujourd'hui, par ces mots, il dit « Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, sous-entendu avec les yeux, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Je crois que toute notre vie chrétienne est ce basculement entre ce qui est éphémère et destructible et ce qui est éternel et indestructible. Ce que nous vivons sur cette terre qui passe et ce que nous sommes appelés à vivre et à être auprès de Dieu, indestructible et éternel. Alors vous allez me dire, ben nous ne sommes ni Marie Durand, ni Blanche Gamon. C'est vrai, mais comme elles, nous sommes des êtres humains. Et donc comme elles, nos vies sont aussi traversées d'épreuves. Et nous en savons tous quelque chose ici, même les plus jeunes enfants, à leur niveau. Alors, peut-être pas de façon aussi extrême que Blanche et Marie, mais certains d'entre nous aussi ont fait l'expérience de la prison, de l'enfermement. Alors peut-être pas dans une prison, un milieu carcéral, mais un enfermement psychique, un enfermement spirituel, un enfermement dans son corps, quand des malades vous disent « je me sens prisonnier dans mon corps », qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, l'expérience de la souffrance est quelque chose que nous partageons tous en tant qu'humains. Et je serais bien curieuse de savoir qui parmi nous pourrait dire « je n'ai jamais souffert ». Notre horizon peut être bouché par moments, pour certains pendant longtemps. Le temps peut être long et ce que l'on voit peut ne pas nous donner envie de vivre. Mais à nous, chrétiens, frères et sœurs, il nous a été donné de recevoir la grâce de pouvoir avancer dans la vie par la foi. Par la foi en la promesse de Dieu. La foi en une terre promise éternelle et parfaite. Dieu nous dit que ce qui nous fait avancer n'est pas ce que l'on connaît, ce qui est visible, ce que l'on peut voir. Car en fait, tout cela passe. Et c'est comme un mirage. Qui a déjà vu un mirage sur la route? Un mirage. On en a tous vu, je crois. Quand on voit une flaque d'eau au loin, puis finalement ça disparaît. Ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, disparaîtra un jour, et peut-être que nous en avons déjà fait l'expérience dans nos vies. Des choses auxquelles nous tenions, dans lesquelles nous mettions une forme de, comment dire, d'espérance, et qui ont disparu, qui nous ont été enlevées. On ne peut pas fonder sa vie sur ce qui est visible. En fait, est-ce que nous pouvons réaliser, et je vous invite à faire ce pas-là, que c'est une chance de pouvoir espérer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre de le formuler comme ça. Parce que espérer, en fait, c'est avancer. Paul, encore lui, nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 24-25, « Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. » Je vais relire ce verset. « Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas et nous l'attendons avec persévérance. » C'est donc une chance, une grâce de ne pas encore avoir ce que l'on espère. Car cela nous fait avancer. Pensons à Abraham, qui a vécu avec la promesse de Dieu devant lui et qui a marché. Ça nous fait avancer parce que la joie de la perspective du moment où nous aurons, où nous verrons ce que nous désirons, cette joie est un moteur pour vivre. Pour peu que nous ayons confiance en Dieu, bien sûr, en sa fidélité, dans le fait qu'il tient sa promesse. La fidélité accomplie de Dieu, frères et sœurs, sa promesse réalisée une fois pour toutes, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qui est-ce ? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ venu vivre, mourir et ressusciter sur cette terre. Jésus vivant qui marche avec nous. Que l'on peut voir avec nos yeux, mais qui se laisse voir avec la foi. Mais quelle grâce ! Mais quelle bénédiction de le connaître, d'avancer à côté de lui et vers lui, de savoir qu'il nous attend au bout du chemin, qu'il nous réserve une place dans la demeure éternelle du Père. Il nous fait cette promesse et il est cette promesse tout à la fois. Et de savoir que alors nous contemplerons sa gloire qui sera plus belle que tout ce que nous aurons vu de beau ici-bas. Tout à l'heure sur la route en venant, nous sommes passés par le col de Menet. Vous connaissez bien cette route enlacée. Et qu'est-ce que nous étions émerveillés de voir la beauté de l'automne flamboyant. Vraiment beau, hein ? Eh bien, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Parce que oui, nous verrons et nous ne marcherons plus par la foi, car tout sera accompli et dévoilé. Il faut imaginer qu'un jour nous n'aurons plus besoin de croire, parce que nous verrons tout simplement. Dieu nous sera visible. Mais d'ici là, nous devons tenir bon. Alors marchons, avançons, aimons, vivons par la foi en regardant à ce que nous ne pouvons pas encore voir, mais que nous savons que nous verrons. Cela nous attend. Et Dieu est fidèle et bon. Amen.